Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonsoir à tous et à toutes, bonjour à toutes et à tous, c'est l'hebdo comme lundi 23 janvier 2023 sur Radio Albitzès avec des températures enfin hivernales et une équipe plus chaude que le climat. Avec aujourd'hui autour de la table Paulina, bonjour.
Salut, ça va ?
Ça va, ça va. Alex, salut Alex.
Salut Will.
À la technique Arnaud, comment va Arnaud ?
Et plat.
Il s'est fait une petite frayeur juste avant le direct là, mais ça va, ça a l'air de fonctionner.
Tout va bien.
Et moi-même, donc, Will, pour animer ce direct au programme chargé. Justement, le programme, on en parle.
Alors, on écoutera en fin d'émission des sons des bêtes des bois pour annoncer la semaine du son organisée par le GMEA. Semaine du son qui débute ce lundi du côté de la salle Arcée de Latanor avec une conférence sur tout ce qu'on appelle voilà, les prises de son de milieux naturels et puis un film. On abordera cette thématique aussi demain dans notre magazine Tôt ou tard.
On entendra aussi vos messages laissés sur le répondeur, boîte vocale et locale de Radio Albitzès.
Nous rencontrerons le maire de Val-de-Riez pour une tentative de portrait d'élu local en milieu rural.
Arnaud vous proposera un extrait d'une émission réalisée la semaine dernière avec des jeunes d'Unicité. Il sera question de service civique. Arnaud, justement,
voilà, tu vas nous donner la suite. J'ai perdu mon papier, mais
il y a un recto et un verso. Voilà.
On retrouvera Baptiste Beaulieu qui nous parlera de son nouvel album illustré jeunesse, Les gens sont beaux.
Et on fera un lien avec une pause musicale.
Voilà, une pause musicale qui nous sera proposée par Pao, c'est Easy Peasy.
Alex vous fera entendre le témoignage de Grégoire Souchet, journaliste indépendant, inquiété par la justice.
Et on commencera ce commun lundi, avec les échos de la journée de grève et de manifestation de jeudi dernier au micro de Will.
Comme un lundi,
c'est parti.
Bon enfant, unitaire, joyeuse, déterminée, inédite, un succès, autant de qualificatifs pour décrire les manifestations de jeudi 19 janvier dernier dans les rues de Castres et d'Albi. Syndicats mais pas que, grévistes mais pas seulement, jeunes retraités mais aussi enfants. Nous nous sommes glissés dans le cortège contre la réforme des retraites du gouvernement et plus généralement contre la destruction du modèle social français pour tenter d'y raconter sa diversité.
Je ne peux pas parler en nom d'un syndicat même, moi je suis juste qu'un déluron qui arrive, je suis handicapé, je suis à zéro par mois, voilà, je ne peux pas travailler non plus. Quand je vois ça, je me dis, les jeunes, l'avenir qu'ils ont, si on n'est pas là maintenant dans la rue, qu'est-ce qui va leur rester hein? Qu'est-ce qui va leur rester? Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est peut-être une des manifs les plus importantes que j'ai vues sur Castres et sur Albi, depuis des décennies, on va dire. Et si ça peut durer encore, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que les gens encore sont encore ensemble. Bien sûr, il y a toujours, comme vous dites, quelques petites luttes, FO, CGT, machin, c'est ça, mais bon, ça, c'est comme les partis politiques. Il y a beaucoup de causes communes dans les partis politiques, hein, et vous retrouverez des mêmes choses, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Voilà, mais après, il faut faire le tri, hein, c'est clair, il faut faire le tri. Moi, personnellement, le seul parti politique qui m'intéresserait, c'est d'être apolitique. Arrêtez tout ça, arrêtez vraiment tout ça, et vraiment mettre au travail. Centrer les choses. Est-ce que par exemple, il y a besoin qu'un président et tous ses acolytes soient vivent dans un musée, on va le dire. Non, ça appartient au public, ça doit rester au public, et puis ça peut même faire rapporter l'argent. Par contre, les bureaux administratifs, tout le monde y est. Et si je dois parler en plus beaucoup plus loin, si on revoit sur l'éducation, je suis désolé, c'est la base même, l'éducation. Quand on voit combien est payé un prof, une instit, et plus le nombre manquant d'instit, et que vous savez, ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'il y a ils ont des grades dans les trucs administratifs, mais ils touchent des primes chaque fois qu'ils arrivent à faire même poste. Oui. Ouais, non, ils touchent des primes. Alors ils vont faire même poste, même poste, même poste, et puis vos gosses, ils vont au lieu d'être à 15 ou 16 dedans, ben, ils vont être à 30, 35, voilà, 35. Et tout ça, bon, c'est sûr que je fais mélange de tout, mais et je ne parle même pas des hostos, je ne parle même pas. Ils ont sabré toute la fonction publique depuis des années. Mais c'était quand même très simple, un fonctionnaire payait un retraité. Et quand on coupe les fonctionnaires à la grande coupe, automatiquement, mais c'est un peu plus équilibré, c'est clair. Par contre, dire qu'il n'y a pas d'équilibre direct sur, on va dire, au niveau des retraites, c'est faux. C'est faux. Je suis désolé, 330 milliards et il y a quoi, 3 milliards de déficit soi-disant. Et encore, je voudrais bien qu'on me le dise, ça fait 1%. C'est-à-dire que c'est même pas ce que un boulanger, on va dire, quand il fait son roulement pour ses pains, ainsi de suite. Donc voilà, donc il n'y a pas d'urgence à la matière, surtout à l'heure actuelle. Au lieu de faire ça, il valait mieux peut-être s'occuper des gens qui sont dans la misère noire, s'occuper en plus, et d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Macron qui l'avait dit, hein, on ne va pas toucher aux plus de 62 ans là, parce qu'en fait, il y a encore des chômeurs de plus de 55 ans. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il a besoin de se prouver quoi? Je me demande. On se demande, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Je sais pas. Ils veulent quoi, la Révolution France? Je sais pas. Donc, de toute façon, on le voit bien, hein, les gens sont pacifiques, hein, donc il n'y a pas d'extrême. Hein, même, je veux dire, ce matin, il y avait un policier qui était en panne avec sa moto, le pauvre, mais on l'a dépanné, quoi. Nous, la CGT, on l'a dépanné. On l'a dépanné parce que on n'est que des vigiles, on va dire, au niveau du système de sécurité voilà, être vigile, c'est présenté. Si un fou arrive parce qu'il est énervé, moi j'appelle ça les pique-assiettes, vous savez, c'est des gens qui vont prendre les résultats de nos manifs. Alors ceux-là, là, ils vont se mettre plein les fouilles, là, et puis ils vont gueuler contre ton manif. Non, mais non, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas dire, non, la manifestation, vous nous emmerdez, ainsi de suite, et après dire, ah ben oui, c'est bien, je vais avoir une retraite à 62 ans, à taux plein, machin, tout ça. Non, non. Je veux dire, ou on se bouge, ou on ne se bouge pas. C'est clair. À bout d'un moment, ben, il faut être un peu tous ces pique-assiettes, là, voilà. Et donc, ces policiers sont première ligne de mire, parce que vous avez des fous du volant, là, qui peuvent arriver. Imaginons, dans une manifestation comme celle-ci, si un camion ou quoi que ce soit rentre dans les gens. Mais je pense que Nice à côté, ce serait que dalle. Et donc, nos policiers sont là aussi pour nous défendre, pour encadrer la manifestation, comme elle doit être encadrée par les professionnels. Voilà, c'est tout. Et bon, et on les remercie, c'est bien. Et il n'y a pas de débordement ou quoi que ce soit. Après, s'il y a des débordements, c'est parce qu'il y aura un ordre donné par la préfecture, préfet qui est nommé par le chef de l'État, hein, qu'on sache. Hein. Voilà, là oui, alors là on va ce qu'on appelle bloquer les gens, on va bien les emmerder, et après on va les gazer et pour les faire chier. Ce qui s'est passé au Gilet jaune, bon, qui était un petit peu lamentable. Hein. En sachant que le budget qu'ils ont mis dans les grenades anti...
LBD et tout ça.
Ouais, LBD, tout ça, là. Ça n'a jamais été aussi fort. Presque des blindés, hein, c'est contre le peuple français. C'est fantastique. C'est fantastique. Voilà. On devrait les appeler, au nom du film, là, Pulp Fiction, ce type-là. Simplement, là. Voilà.
Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais.
On a signalé des paysannes dans ce cortège.
Alors,
des paysannes.
Où sont les paysans? Où sont? Nous avons une paysanne, une autre paysanne.
Voilà. Il y en a 4 ou 5 là autour. Ah, voilà.
Alors, pourquoi il y a des paysannes dans ce cortège? Pourquoi toi, t'es là, en tout cas?
Bah, j'ai pas envie de travailler trop longtemps non plus. Le métier de paysan, c'est très fatigant. On a quand même le corps qui charge. Et qu'on donne déjà beaucoup. Beaucoup pour peut-être pas une grande rémunération. C'est surtout le cœur qui
peut-être
nous fait travailler.
Pas.
Moi, pas trop.
Peut-être
en effet.
Pas ou sûrement pas.
Moi, sûrement pas. Moi, je suis maraîchère, on ne roule pas sur.
Lui, il rigole parce qu'il est déjà retraité, c'est ça?
Voilà, c'est
oui,
ça.
Oui. Mais il n'y a pas pour ça une meilleure rémunération. Hein.
Et que voilà, si on peut se reposer plus tôt aussi, ça serait pas mal, plutôt que de trimer encore plus d'années. Voilà, c'est mon point de vue. Et puis aussi, on milite aussi pour une retraite, un minimal retraite qu'on nous avait promis et qu'on n'a toujours pas eu.
Pour les agriculteurs agricoles.
Oui, ouais, je crois que c'était à peu près 1000 euros quand même de minimum.
Oui.
Ce qui serait pas mal quand des fois ça tourne à 500 euros la retraite, quoi. Enfin, voilà. Voilà ce que j'ai à dire, mais il y en a d'autres qui peuvent parler.
J'imagine que c'est un peu compliqué aussi de se bloquer une journée pour aller manifester quand on est paysan ou paysanne.
En fait, c'était une volonté d'être là, vraiment, pour dire le ras-le-bol quand même. On crie peut-être pas très fort, mais c'est pas pour ça qu'on le pense pas. Et on nous prend un peu pour des pions. Cette politique nous convient pas. Du coup, je me suis organisée pour pouvoir venir parce que c'était important pour moi, quoi. Donc après, bon, c'est un peu l'hiver, on a un peu moins de travail, mais c'était vraiment une volonté de soutenir, d'être là, de faire du nombre. pour montrer qu'on est énormément à pas être d'accord avec ce qui se passe, quoi.
Et alors, il y a des gens qui disent, parce que là, on est sous un drapeau syndical, la Confédération Paysanne.
Ouais.
Il y a d'autres drapeaux, CGT, CFDT et autres. Est-ce qu'il y a du dialogue entre ces syndicats ou est-ce que c'est compliqué parce qu'on a coutume de dire que la Confédération Paysanne est un syndicat de patrons puisque vous êtes votre propre patron.
Ah.
Des patrons.
Alors ouais, peut-être qu'on nous considère comme des patrons, mais enfin moi j'ai pas l'impression d'avoir le tempérament d'une patronne, d'une personne qui gère son exploitation toute seule. Mais je sais pas, moi je respecte les salariés, j'embauche un peu en contrat aidé, j'ai du respect pour chacun. Ouais. Après la communication entre syndicats, c'est vrai que peut-être elle se fait pas souvent, en effet. Ça, c'est,
Il faut des grosses réformes comme ça pour des attaques sur les retraites comme ça pour rassembler un peu tout le monde.
Peut-être, mais en fait nous. Spécifiquement à la Confédération Paysanne, on n'est pas énormément à militer, c'est surtout un manque de temps qu'on a. Gérer l'exploitation et être disponible pour réfléchir sur des sujets et pouvoir se défendre sur les sujets, c'est très compliqué pour nous. Ouais. C'est vraiment un manque de temps. Je pense que c'est pas qu'on n'ait pas la volonté, mais c'est que on a pas mal de départs en retraite et on cherche des gens qui sont motivés, qui ont du temps. Et c'est compliqué, ouais.
Voilà quelques-unes des voix rencontrées dans la manifestation de jeudi dernier dans les rues d'Albi, où plus de 10 000 personnes ont battu le pavé, chanté et grévé, donc, en vue de faire entendre leur mécontentement quant à la réforme des retraites, mais pas seulement. Retrouvez l'intégralité de notre reportage dans la manif, ce vendredi 27 janvier à 20h sur nos ondes, et rediffusion ce samedi matin à 10h. Et prochain rendez-vous dans la rue, le 31 janvier prochain, donc, d'ici là, d'autres rendez-vous autour des questions sociales vous seront proposés un peu partout dans le Tarn, à surveiller donc. Et durant cette période de reprise de parole, Radio Albi 16 vous propose de laisser vos messages sur la boîte locale et vocale au 09 77 66 38 56 pour nous dire par exemple comment vous la voyez, vous, votre retraite. 09 77 66 38 56.
Grégoire Souchet, journaliste indépendant spécialisé dans l'énergie et l'environnement, est actuellement accusé d'avoir participé à une action militante des faucheurs volontaires, action qu'il couvrait comme journaliste pigiste pour le média Reporter. Grégoire Souchet était à Rabastin ce mardi 17 janvier pour un café-débat au Banc Sonore et nous avons pu l'interroger sur son histoire et ce qu'elle reflète.
Pourquoi je suis allé voir les faucheurs en action ce jour-là? Bah parce qu'en fait, je suis journaliste localier, on pourrait dire, mais pas pour la presse quotidienne régionale. Moi, j'ai l'ambition d'être journaliste indépendant en zone rurale et de travailler pour des médias locaux ou nationaux. Et du coup, je travaille avec Libération, avec Reporter, avec de la presse spécialisée sur l'énergie. Et en l'occurrence, on m'avait averti qu'il y avait une action ce jour-là, sans donner trop de détails. Et du coup, je suis journaliste pigiste, donc je vends mes sujets. Et j'avais proposé le sujet à un reporter qui me l'avait pris. Et donc j'étais en reportage ce jour-là, comme n'importe quel journaliste de France 3. L'AFP était sur place, Mediapart, même une journaliste était sur place ce jour-là. Et puis, je faisais mon travail. Les actions des faucheurs, les actions des obéissances civiles, on ne sait jamais comment ça va se passer. On ne sait jamais comment vont réagir les entreprises dans lesquelles les militants interviennent. On ne sait jamais comment vont réagir les policiers ou les gendarmes. Et en fait, c'est l'intérêt d'être journaliste sur place, c'est de constater ce qui se passe, de le vérifier, de décrire le déroulé de l'action. C'est le principe d'un reportage. Un reportage, c'est fait pour... on est sur place et on décrit les faits, l'environnement, comment ça se passe, voilà. Parce qu'effectivement, on peut faire des articles par téléphone, on peut les faire en appelant l'un, en appelant l'autre. C'est ce qu'a fait par exemple un journal local qui a décrit les faits comme étant « les faucheurs détruisent un entrepôt de l'entreprise RAGT ». Sauf que ce qui s'est passé, c'est pas ça, c'est que des faucheurs volontaires se sont introduits dans des entrepôts et ont saccagé des sacs de graines. Il y a une destruction réelle, mais ils n'ont pas incendié un entrepôt, quoi. Et ça, simplement, pour le constater et vérifier qu'est-ce qui se passe, il faut être sur place. Pour moi, c'est nécessaire, et c'est nécessaire dans notre pluralité. Certains n'aiment pas reporter, hein. Je comprends. Moi, je travaille aussi avec des journaux de la presse agricole en Lozère. C'est pas du tout la même ligne éditoriale de reporter. Et je raconte pas forcément les mêmes choses parce que je m'adresse pas aux mêmes personnes. Mais c'est bien qu'il y ait une pluralité de médias. C'est bien qu'il y ait reporter, c'est bien qu'il y ait La Dépêche, c'est bien qu'il y ait France 3, et bien qu'il y ait tous les journaux nécessaires pour raconter. Et le public, eh bien, en lisant reporter, en lisant les autres aussi, il va se faire son avis dans la pluralité. Nous, journalistes, notre boulot, c'est de décrire l'action. Mais c'est pas de faire un tract, c'est de raconter l'action, d'interroger l'entreprise et ce que j'ai fait pour savoir ce qu'ils en ont à dire. Eh bien, ils vont poursuivre les faucheurs, ce qu'ils m'avaient dit à l'époque, et puis de mettre en contexte le sujet. Ce que je m'attendais pas, c'était que je sois convoqué 3 mois plus tard par la gendarmerie. Alors, les motifs qui me sont reprochés, c'est vol et dégradation en réunion, et donc je suis au tribunal correctionnel, et en fait, on me reproche exactement la même chose qu'aux faucheurs volontaires. Il y a 28 faucheurs volontaires qui ont été... qui sont poursuivis dans cette affaire, et mon dossier. Et je me distingue très nettement d'eux, parce que eux-mêmes ont été extrêmement surpris de voir mon nom dans la liste des accusés. Alors pourquoi je suis poursuivi ? Là, on ne sait pas exactement pourquoi, parce que ça appartient au secret de l'ancien procureur de la République de l'Aveyron, qui est maintenant à Agen. On a des pistes. Pour imaginer, c'est que sur place, je n'ai pas formellement été identifié comme journaliste par les gendarmes parce que ceux-ci sont arrivés tardivement et qu'en gros, on ne s'est pas croisé au moment où ils étaient là, parce que ma voiture a été prise en photo à un moment donné. Mais enfin, je me suis quand même présenté auprès d'un vigile de la RAGT ou d'un salarié de l'entreprise qui me filmait et j'ai montré ma carte de presse. Et puis, j'ai fait mon travail en fait, sur place. C'est-à-dire, il n'y a même pas de discussion à avoir. Je suis journaliste. Que j'ai ou pas une carte de presse d'ailleurs, je fais mon travail de journaliste sur place, j'ai un appareil photo, j'ai un carnet, j'interviewe les personnes avec mon téléphone, je prends des notes, je fais mon boulot de journaliste, quoi. On s'est mobilisé là au début du mois de décembre, parce que, en fait, ça fait 3 fois qu'à Reporter, on est des journalistes qui subissons ces types de poursuites. Alors moi c'est le plus grave, puisque moi là c'est au tribunal correctionnel, mais des collègues ont eu une garde à vue, un autre a eu une amende. Stop. En fait, on fait notre travail de journaliste, et pour pouvoir faire notre travail, il ne faut pas qu'on soit inquiété par la justice, ça paraît aller de soi. Je précise que la RAGT, eux-mêmes, quand ils ont été interrogés par des collègues, ils disent bien que ce n'est pas leur affaire. Alors après, je ne sais pas... Qui dit quoi ou nulle part, je n'ai pas d'éléments. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est un procureur qui a lancé les poursuites, et il y a un nouveau procureur, et nous, ce que nous demandons, c'est l'abandon des poursuites. Certains pourraient dire peut-être que « mais va jusqu'au procès, tu seras disculpé, et comme ça, tu seras blanchi ». Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que aller jusqu'au procès, ça veut dire payer des frais de justice, ça veut dire passer 6 mois où, en gros, je dois être marché sur des œufs sur les sujets agriculture, dans un département aveyronnais qui est précisément connu pour les questions agricoles. Comment je vais faire pour couvrir les sujets qui traitent de la RAGT pour Libération, par exemple, ou même d'autres médias, ou même reporters, si je suis sous le coup d'une procédure comme ça? Comment je fais pour parler de la justice aveyronnaise, s'il y a des choses à raconter sur la justice? Évidemment, il y a ma situation qui est assez ridicule. Vraiment, sur le fond, c'est une action de 70 faucheurs dans les locaux de la RAGT en Aveyron. Mais pourquoi c'est presque une affaire nationale? Pourquoi j'ai reçu le soutien de Edoui Plenel, de Benoît Colomba, de France Inter, de Daniel Schneiderman, ex-Arrêt sur Image? Enfin, pourquoi la profession, les syndicats de journalistes, la Ligue des droits de l'homme, même l'ONU, une instance de l'ONU pour les droits de l'homme m'a contacté pour me soutenir? Parce qu'en fait, ça s'inscrit dans un contexte où on est de plus en plus nombreux, journalistes, à être empêchés de travailler. Il y a eu un télescopage, en fait, cette fin d'année 2022, avec Mediapart, qui est empêché de publier un article concernant l'histoire de la sextape du maire de Saint-Étienne, une histoire sordide, et la suite du premier article a été empêchée d'être publiée pendant plusieurs semaines, parce qu'un juge avait dit que Mediapart ne pouvait pas publier. En fait, de toutes parts, on a l'impression qu'on nous empêche de travailler, et on nous empêche d'exercer librement notre métier de journaliste. Et par plusieurs aspects. Alors, depuis des années, c'est connu, oui, il y a une concentration des médias qui sont rachetés par des entreprises. On a eu un exemple avec le groupe Reworld qui a racheté des journaux indépendants. Pour qui s'intéresse, par exemple, à la presse jeux vidéo, il y a un site d'information indépendant qui menait depuis des années une bataille d'indépendance qui s'appelle Gamecult, qui vient d'être acheté. Et puis on a eu toutes les affaires autour de Bolloré, voilà, bon. À la limite, ça c'est connu. Et en fait, la résistance, elle se fait au niveau économique. Parallèlement, on a des phénomènes de pression dans notre métier qui est sur la réception de nos articles avec des menaces, avec des campagnes de harcèlement, et ça notamment les femmes journalistes, quand elles ont sorti des enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles, se sont énormément exposées à ces questions, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mais pas que, hein, aussi dans les commentaires d'articles, il y a une pression sur elles, et voilà. Il y a la pression économique, on a un métier difficile, qui comme d'autres professions ont du mal à joindre les deux bouts pour beaucoup. On est un tiers de journalistes qui sommes pigistes, et parmi les pigistes, je suis membre d'une association nationale qui s'appelle Profession Pigiste, et même si on promeut ce mode de rémunération et cette manière de travailler, ben, on voit bien que la précarité est grande, notamment chez les femmes, là aussi. Et on a tout ça. Et puis donc maintenant, il y a eu aussi la police, avec... cette idée dans les nouveaux schémas de maintien de l'ordre que les journalistes devaient se présenter avec une carte de presse et se faire enregistrer dans les manifs, ça on a réussi à faire reculer grâce à la mobilisation des syndicats de journalistes. Et puis donc maintenant la justice, avec au milieu des élus locaux, des élites politiques ou économiques qui refusent de répondre à nos questions, avec aussi des services communication qui ont pris une place démesurée et donc qui maintenant viennent quasiment nous engueuler quand on va juste interroger directement un élu qui nous a appelé l'autre fois parce qu'on a son contact et que c'est normal d'interroger les gens, et non, il faut passer par le service de presse pour qu'ils contrôlent tout. Et donc maintenant la justice, et mais stop, laissez-nous bosser en fait. Alors oui, on n'est pas en Iran, on n'est pas en Russie, hein, on n'est pas dans une censure totale et ça, mais c'est justement parce qu'on n'y est pas qu'il faut pas y aller. C'est bien en fait de maintenir une presse libre, indépendante. En fait, on n'est pas des ennemis du pouvoir ni leur allié. On est là pour être un outil démocratique, pour éclairer le public sur ce qui se passe dans son pays, donner peut-être des éléments de comparaison, de mise en perspective, et faire notre travail. Et je crois que là, avec cette affaire, je pense qu'on atteint un seuil qui est vraiment problématique.
Vous venez d'entendre le journaliste indépendant Grégoire Souchet, qui était au banc sonore de Rabastin ce mardi 17 janvier pour un café débat.
Et merci Alex pour ce sujet. Alex, on va prendre deux minutes pour causer, puisque c'est ta dernière semaine de stage chez nous à Radio Albigès. Ouais. Tu es donc étudiant en école de journalisme du côté de Bordeaux. Donc je disais dernière semaine parmi nous. Est-ce que tu peux nous raconter tes impressions sur le travail que tu as pu fournir, notamment par exemple ce reportage-là?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, vous l'avez su, mais en arrivant, moi j'étais plutôt tourné audiovisuel. Mmh. Et malgré ça, j'avais vraiment envie de voir ce côté... purement audio finalement, et j'ai été plus qu'agréablement surpris, hein. ça dépassait tous mes espoirs finalement, et donc j'ai eu cette chance de pouvoir partir moi-même en reportage, donc parfois avec toi Will, hein, notamment pour la rencontre avec la CNL, mais également tout seul, donc avec Grégoire Souchet, ou également aussi avec une maman et son fils qui est autiste, et donc que ce soit pour Souchet ou cette mère et son enfant, ça a été une expérience qui m'a permis de gagner énormément en autonomie, et je vous remercie d'ailleurs pour cette confiance qui a été très importante dans ce stage.
Et justement, par rapport aux différents supports médias que tu peux aborder à l'école, quoi, oui. L'écrit, l'image, le son et la radio, qu'est-ce que ça a de spécifique pour toi justement ?
Et ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, c'est un exercice totalement différent. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que, par exemple, à l'écrit, on peut avoir pour support des images. En vidéo, il y a le son et l'image. Et par contre, pour la radio, à part le son, il n'y a pas grand-chose. Oui. Et c'est ce qui m'a particulièrement plu, c'est qu'il faut tout donner dans l'audio. Et c'est un travail vraiment de précision. Et beaucoup de travail finalement.
Deux écritures d'ailleurs, là on le voit pas, mais on a plein des trucs écrits devant nous.
C'est vrai.
Il y a beaucoup d'écritures quand même. Et puis deuxième écriture avec le montage aussi.
Également. Mais je veux dire, pour le rendu final, il faut vraiment se pencher sur ce côté audio qui fera tout.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de retour à l'école ou dans tes prochains stages ?
Que du bonheur, j'imagine. Mais en plus général, pour faire le lien avec l'interview de Grégoire Souchet, peut-être un journalisme plutôt libre.
Le journalisme debout.
Le journalisme debout, exactement.
Merci Alex. On est encore avec toi cette semaine. On entendra sur les ondes d'autres... le portrait que tu as fait de cette maman, on l'entendra sûrement dans les prochaines semaines. Mm-hmm. On en reparlera. Et en tout cas, merci encore d'être avec nous.
Merci beaucoup à vous.
Alors voilà, le dimanche 15 janvier 2023, à Fessac, joli petit village près de la Bastille de Lévis, j'ai eu l'occasion de rencontrer un humaniste. Et ça, ça fait du bien. Il regarde vraiment les gens. Alors il y a différentes manières de regarder les gens, vous me direz. C'est d'ailleurs le sujet de son nouvel album illustré jeunesse, « Les gens sont beaux ». Mais lui, il regarde avec bienveillance, avec intelligence et considération pour chacun. C'est plutôt rassurant car cet homme, en plus d'être écrivain, il est aussi médecin. Et croyez-moi, on voudrait tous avoir une place en tant que patient chez lui. Mais son agenda déborde tellement déjà. On le connaît pour différents ouvrages comme « Alors voilà, les mille et une vies des urgences » qu'il a fait connaître du public avec son blog également concernant le même sujet. Alors, vous ne serez plus jamais triste. Et il s'essaye aussi dans la poésie avec toutes les histoires d'amour du monde. Je parle bien sûr de Baptiste Beaulieu, qui fait le buzz des dernières sorties littéraires du moment. Il a accepté de répondre à quelques questions pour Radio Albigès, juste avant l'échange pour l'ivresse des mots. Et ouais, il est comme ça, Baptiste Beaulieu, accessible et simple. L'ivresse des mots, c'est un événement culturel qui célèbre les noces de la littérature et du vin, en proposant des rencontres publiques, animées par un journaliste littéraire, Brice Torresilas. Pour cette occasion, Baptiste Beaulieu présente son premier album jeunesse, « Les gens sont beaux » des éditions Les Arènes. L'histoire d'un grand-père qui explique à son petit-fils que la société est faite de gens bien différents et surtout de corps bien différents. On peut lire sur la quatrième de couverture « Je vais te confier un secret ». Un être humain, c'est une histoire et quand tu connais cette histoire, bah ça change tout. Mais je vais arrêter de spoiler et je ne peux que vous conseiller de le lire car c'est un hymne à l'humanité, à l'altruisme et à la bienveillance. Baptiste Beaulieu, bonjour. Merci de répondre à quelques questions pour Radio Albigès, juste avant l'échange qui vous attend pour l'ivresse des mots, en ce dimanche 15 janvier, à Fessac, un auteur, un vigneron et vous. Juste pour commencer, votre album « Les gens sont beaux », c'est votre premier album jeunesse ?
Alors c'est mon premier album jeunesse, tout à fait, et je m'attendais pas à ce qu'il rencontre un succès pareil. J'ai écrit ça pour me détendre entre deux romans, comme ça, rapidement, et j'ai écrit ce qui me tenait à cœur, en tout cas ce que j'aurais voulu lire quand j'étais pré-ado, on va dire, pour me sentir un peu mieux dans mon corps à l'époque, et visiblement ça touche beaucoup à la fois les enfants, mais aussi beaucoup les adultes. Quoi.
Pourquoi passer un tel message sur le corps aux jeunes ?
Parce que déjà en tant que médecin, on croise des corps, hein. Notre métier essentiellement c'est croiser des corps et s'apercevoir que tous ces corps qu'on croise, ils vont toujours avec une histoire et que tous les corps ont une histoire et qu'une fois qu'on connaît l'histoire d'un corps, il devient beaucoup plus difficile de le juger. Voilà. Alors quand on est enfant, c'est de se moquer, mais quand on est adulte, c'est de le juger. Et je pense que c'était bien de rappeler cette simple vérité, ouais, que les corps ne sont jamais nus, qu'ils sont toujours accompagnés d'un bagage et que ce bagage c'est aussi ce qui fait la beauté du genre humain. Quoi. Tous les bagages sont différents parce que toutes les histoires sont différentes, donc elles sont précieuses.
Il y a beaucoup d'humanité dans votre livre. Pourquoi une telle sensibilité autour du corps ? Certes, vous êtes médecin, mais de passer un message humaniste et un message de bienveillance.
Parce qu'une vie, ça peut être très long, une vie, et que ce corps, il est là, on doit se le trimballer parfois 60 ans, 70 ans, 80 ans, et je m'aperçois combien de mes patients vivent mal avec leur corps, ont des comptes à régler avec leur corps, et que si on l'aimait un petit peu plus, ce corps, si on aimait notamment l'histoire qui va avec, peut-être qu'on habiterait le monde un peu mieux, ou en tout cas de manière un peu plus sereine, et je trouve ça merveilleux aussi, à la fois que médecin, mais aussi en tant que romancier, c'est-à-dire raconteur d'histoire, de voir tous ces corps, toutes ces histoires, et de rappeler, oui, cette évidence-là, que une vie humaine, c'est aussi une histoire de corps.
Quand on regarde toute votre bibliographie, et aujourd'hui ce nouvel album, on sent que vous regardez les gens, vous les écoutez, vous les faites parler, bref, vous les considérez vraiment dans leur entièreté, dans leur globalité.
On a tendance, malheureusement, et ça c'est peut-être le fait scientifique qui nous pousse à considérer l'individu comme un assemblage d'organes, en fait. Et la personne vient avec une douleur au foie, bon, ben, on va traiter cet organe-là qui est le foie, sans se préoccuper forcément des raisons qui ont rendu cette maladie du foie possible. Et les raisons qui rendent telle ou telle maladie possible sont toujours des raisons qui dépassent largement la médecine d'organes. Et on ne peut pas soigner convenablement quelqu'un si on ne prend pas la personne en son entièreté, si on ne prend pas notamment en compte ses antécédents personnels. Et dans les antécédents personnels, il y a aussi l'histoire, et donc l'histoire de ce corps. Qu'est-ce qui fait que cette personne, parfois, en est arrivée là, et en est arrivée à un état de maltraitance, ou d'auto, on va dire, oui, d'auto-mutilation vis-à-vis de ce corps-là, hein, que ce soit par la nourriture, par l'alcool, par les stupéfiants, ce que vous voulez. Moi, je fais beaucoup de toxicologie, j'accompagne les patients en situation d'addiction. Le nombre de gens qui se font du mal, on ne peut pas traiter juste, ah ben voilà, je vais vous traiter juste l'addiction sans essayer de comprendre qu'est-ce qui a provoqué et rendu possible cette souffrance-là, quoi. Et on vit dans une société où beaucoup de gens, beaucoup trop, ont des souffrances, et des souffrances qu'ils taisent. Pourtant, c'est terrifiant de se dire qu'on a tous et toutes une histoire, et que ce corps, cette histoire, on a tendance à la garder pour nous, à ne pas la partager. Alors qu'il n'y a rien de plus extime que l'intime. C'est-à-dire, on prend une rame de métro, il n'y a pas une seule personne dans la rame de métro qui n'a pas une histoire compliquée à raconter. Alors, qui a un eczéma récalcitrant, qui a un problème d'anorexie, qui a des problèmes de santé mentale. Et je crois qu'on gagnerait à partager ces histoires, parce que plus on les partage, ah oui, moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai ça. C'est comme si on se partageait comme ça des histoires, on se sentirait moins seul, je crois.
C'est la conclusion de ce livre, ouais, d'ailleurs, que vous venez présenter aujourd'hui.
Oui. Il faut partager nos histoires, parce qu'il y a quelque chose de terrible qui se crée, je pense, en vieillissant. C'est, souvent, on voit les enfants qui sont émerveillés comme ça et qui disent à leurs parents, qu'est-ce qu'il a le monsieur, qu'est-ce qu'il a la dame, quand ils croisent quelqu'un. Et aussitôt, le parent dit, ah, chut, tais-toi, dis pas ça, parle pas trop fort. Alors que souvent, la personne en question, elle serait ravie de raconter pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai cette petite anomalie-là, et parce que ça lui permettrait déjà d'être, comment dire, plus au clair, d'être moins regardé de travers ou jaugé. Et les gens demandent qu'à ça, raconter, quoi, raconter leur histoire pour arrêter justement d'avoir des regards parfois un petit peu interrogateurs ou gênants sur leur corps, quoi. Pourquoi, en grandissant, on perd cet émerveillement-là de l'enfant qui, en plus, une fois qu'on lui a raconté l'histoire, ne se pose plus de questions et il n'est pas dans le jugement, quoi. Contrairement aux adultes qui ne vont pas vouloir savoir, qui ne vont pas oser poser la question, mais qui, du coup, vont peut-être rester dans des stéréotypes, des préjugés ou des jugements sur le corps d'autrui, quoi.
En tant que médecin et romancier, quel est votre avis sur l'état de santé de la France ?
Alors, c'est pas un avis très optimiste. Moi, je suis jeune médecin, ça fait à peine 10 ans que je suis installé. Et ce que je peux constater, c'est que l'état de notre système de santé est en train de se casser la gueule, mais vraiment. Et alors, ça pourrait être juste des mots, mais pour nous qui sommes médecins, qui avons les mains dans le cambouis, on va dire, ça se concrétise par des petites choses comme des retards de diagnostic, des retards thérapeutiques, des difficultés à orienter les patients vers les spécialistes. Parfois, passer 10 minutes au téléphone avec la petite musique en attendant d'avoir enfin un interlocuteur au téléphone qui nous dit « Ah, mais non, mais on n'a pas de rendez-vous avant 3 mois, 4 mois. » Mais ce retard-là de soins, c'est du désert médical. Parce que souvent, les gens s'imaginent que le désert médical, c'est quelque chose qu'on trouve au fin fond de l'Ariège ou de la Creuse. C'est faux, le fait d'avoir un rendez-vous que dans 4 ou 5 mois avec un spécialiste, alors qu'avant, c'était un mois, voire moins. Ça, c'est du retard médical. Le fait que notre temps de consultation disponible, c'est-à-dire que dans les années 80, un médecin pouvait passer une demi-heure avec un patient. Maintenant, c'est plus possible, compte tenu du vieillissement de la population et de l'accroissement de la population française. On se retrouve submergé, parce que plus on vieillit, plus on est malade, donc plus on consomme, entre guillemets, du soin. Et le problème, c'est que le nombre de médecins n'augmente pas assez par rapport à cette augmentation du nombre de la population française et du vieillissement de la population française. Et ça va aller droit dans le mur. Mais ça veut dire aussi que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais qu'il y a des gens qui vont payer les pots cassés, c'est-à-dire en termes d'espérance de vie en bonne santé, de retard diagnostique. Moi, je suis particulièrement inquiet. Je vous dis, je suis tout jeune médecin, j'ai la trentaine. Je suis très effrayé, des choses toutes bêtes, mais je me dis comment mes parents, par exemple, vont être soignés demain, dans de bonnes conditions, par rapport à ce que j'ai connu il y a 10 ans. C'est le jour et la nuit, déjà, quoi. On a l'impression de faire de la médecine d'un autre pays, quoi. En tout cas, pas la France, qui était réputée pour son système de santé, quoi.
Rendez-vous sur doctolib.fr. En cas d'urgence vitale, composez le 15.
Bonjour et bienvenue au cabinet médical du docteur S. Le secrétariat est actuellement servi pour toute urgence médicale, le soir à partir de 20h, la nuit, le week-end et les jours fériés, venez contacter le 3966. Pour toute urgence vitale, venez contacter immédiatement le 15.
La permanence des soins est assurée par le 3966. En cas d'urgence vitale, composez le 15.
Et enfin, pour conclure, des futurs projets de romans.
Alors là, je suis en pleine édition artistique. Là, j'écris beaucoup, je suis ravi. Donc là, j'ai un prochain roman que je suis en train de terminer, qui devrait sortir en octobre, normalement, si tout va bien. Et j'avais envie d'écrire un album jeunesse. On avait convenu d'un thème, et puis un après-midi, j'ai eu envie de raconter autre chose, qui a plu énormément à ma maison d'édition. Et du coup, on va partir finalement sur ce que j'ai écrit, qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait programmé, mais qui, je crois aussi, c'est ça le fait d'être un auteur, c'est qu'on n'écrit pas sur commande, on n'arrive pas à se tordre le bras, on écrit ce qui nous traverse au moment où ça nous traverse. Et donc, il y aura un prochain album jeunesse, normalement en octobre aussi, si tout va bien.
Merci pour votre bienveillance, d'avoir accepté de répondre aux questions pour Radio Abiges, et merci pour votre chaleur humaine.
Merci à toutes et tous, et passez une bonne journée.
Retrouvez l'intégralité de cet échange dans le cadre de l'Ivresse des mots entre Baptiste Beaulieu, écrivain humaniste, et Fabien Roufiac, qui perpétue en agriculture biologique la culture d'une vigne à taille humaine, dans l'émission Conférence, demain à 22h, ce samedi en nocturne à 1h du matin, et ce dimanche à 20h. Et pour ceux que ça intéresse, retrouvez plus d'informations sur les rencontres écrivains-vignerons sur leur site www.gaillac-groyer.fr. La prochaine rencontre a lieu à Coufouleux le dimanche 12 février. Et puis, vu qu'on parle de corps, je vous propose une pause musicale qui, je pense, vous fera au moins bouger la tête ou marquer le rythme avec le pied, ou de claquer sa main contre sa cuisse, au mieux de partir dans une danse énergique. Bref, lâchez-le ce corps. Avec le groupe Easy Peasy, ou EZPZ en bon français, Easy Peasy, c'est la fusion d'un hip-hop résolument outre-Atlantique, un électro-world acoustique. Fred, MC Derek, chanteur survitaminé, Nico, DJ Slade, beatmaker passionné, s'allie à deux instrumentistes de talent. Sam, un clarinettiste virtuose, et Zav, un claviériste inspiré. Bref, quatre garçons pleins d'avenir, énergiques et eux aussi adorables. On s'écoute le morceau The Postman, extrait de leur album In the Wakey World. Bonne écoute et lâchez-vous sur Radio Albiges.
He's always moving in the sandbox. Ass on his back, smoking a morning joint as usual. He's riding with eyes almost shut, only needs to hear the wheels on asphalt. Totally a full life story, pleasure to roll but not only. Now he also delivers the mail, the postman still gets high in the end. This guy's discreet, but a king of the street. Sometimes so high that he throws the mail without even looking. Oh damn, it goes right on the milkman. Sorry, bro, but maybe you're too slow. You should probably wear hat when you hang around. You give me a bottle, cause I'm getting dry. Then he gets back on his back and fly. Every CD needs a postman. Every news comes through my cold hands. I am the superhero.
some work. Hey, mommy, can I get my snack? I like your famous Sunday apple pie. Oh, fuck, it got sidetracked. It was raving and thinking of his old man, but now he's back in real life. He's gonna cycle all through the night.
C'était le groupe Easy Peasy avec le morceau The Postman, issu de l'album In a Wakey World.
Comme un lundi, le journal d'information de Radio Albigeois.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi.
Tous les lundis, à midi et 18h, mais aussi en podcast sur radioalbigeois.com.
Allez, en ce début d'année 2023, nous relançons notre campagne d'adhésion à Radio Albigeois. L'occasion de vous rappeler que soutenir Radio Albigeois, c'est soutenir votre média d'action locale, un service de communication sociale de proximité qui existe depuis 1981. Radio Albigeois, c'est de la musique, bien sûr, mais aussi des émissions et surtout de nombreux projets, notamment des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Cette année, en 2023, nous réalisons des actions à l'extérieur, comme au campus Font-Labour, à l'université Champollion le mercredi, au collège Augustin Malroux de Blaye-les-Mines le mardi, mais aussi des ateliers dans des zones rurales comme ce mercredi où nous serons à Valence, ou bien ce jeudi où nous serons du côté de l'école de Terre-Clapiers. Toutes ces actions que nous proposons permettent de découvrir les coulisses de la radio et donneront peut-être envie à ces jeunes de se lancer dans l'aventure radiophonique. Cette semaine, mercredi à 16h et samedi à midi, vous entendrez une émission réalisée à l'occasion de ces ateliers. En voici un extrait.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Albigeois pour cette émission un peu spéciale consacrée au service civique. Nous sommes une dizaine de volontaires en service civique à Unicité à l'antenne d'Albi dans les studios. Je m'appelle Jules et pour commencer je suis en compagnie de Kevin.
Bonjour.
Et de Solange.
Bonjour.
Il y a également Jean-Paul et Maxime à la régie et nous vous présenterons le reste de l'équipe au fur et à mesure de l'émission. Cette émission prend place dans un contexte de formation en partenariat avec la radio Albigeois et dirigée par Lucie Callas. Kevin, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, concrètement, on va vous parler du service civique. On va présenter nos missions et ce qu'on va faire, ce qu'on fait aussi. Et pendant cette émission-là, on va parler des anecdotes qui ont pu se passer pendant nos missions. Et on va aussi parler de nos passions en dehors du service civique.
Alors, Unicité est une association qui accompagne des jeunes autour de différentes missions de service civique. Par exemple, Solange, est-ce que tu peux nous parler de ta mission ?
Oui, alors moi je suis dans un projet qui s'appelle Mobilitaire. Donc en fait, le but c'est de développer la mobilité durable et inclusive dans les zones rurales du Tarn. Avec l'équipe, dont Maxime ici présent, on sensibilise les habitants à se déplacer autrement, le vélo, les transports partagés. On met en place des solutions concrètes comme des navettes pour accompagner les personnes dans les marchés. C'est très riche puisqu'on travaille avec les écoles, les collèges, les personnes âgées et évidemment les élus.
Avec Kevin, nous sommes dans la mission Cinéma et Citoyenneté. Il s'agit d'intervenir dans des établissements scolaires, principalement des collèges et des lycées, pour projeter des courts-métrages et faire parler dans des ciné-débats les élèves autour de sujets de société comme par exemple le harcèlement, les relations entre filles et garçons, le handicap ou encore le racisme. À Unicité, il y a également des missions autour de l'environnement, autour de la solidarité avec les seniors ou de la solidarité avec les aidants. Solange, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager dans un service civique ?
Je pense que ce qui nous unit tous ici, c'est l'engagement. voilà, je pense que le service civique, avant tout, c'est un moyen de s'engager pour une cause, pour une grande mission altruiste, donc pendant 8 mois. Et c'est une opportunité pour faire quelque chose qui a du sens pour nous, pour se sentir utile, pour exprimer notre créativité, nos idées, nos envies. Est-ce que ça résonne en vous, Jules et Kevin ?
Moi aussi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et moi, pour donner plus de détails sur pourquoi moi j'ai rejoint le service civique, en gros, je voulais reprendre mes études, mais avant je n'étais pas vraiment sûr, du coup je voulais quand même faire quelque chose. Et du coup, on m'a dirigé vers ça, et on m'a proposé les diverses missions, et ce qui m'a le plus parlé, c'était évidemment le cinéma et citoyenneté. Personnellement, je trouve que parler de sujets qui sont importants en société, mais que personne n'ose vraiment aborder, je trouve ça très intéressant, et surtout libérer la parole, je trouve ça vraiment, vraiment très joli.
Oui, je vous rejoins. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de travailler au service des autres, au service de la communauté, comme vous l'avez précisé. Solange, tu avais envie de revenir sur peut-être les préjugés qui peuvent parfois entourer le service civique pour certaines personnes.
Oui, moi je trouve qu'il y a beaucoup de préjugés qui peuvent freiner les jeunes justement. Par exemple, moi j'ai toujours entendu que c'était fait essentiellement pour les jeunes en décrochage scolaire. En fait, c'est pas du tout fait pour un type de personne. C'est ouvert à tous et à toutes, qu'on soit étudiant, en décrochage, au chômage, qu'on ait envie de faire une pause, de se réorienter, de tester quelque chose. Il y a vraiment tout le monde qui a sa place. Et du coup, est-ce que vous aussi, vous aviez des idées reçues avant de venir au service civique, et est-ce que vos opinions ont changé ?
Alors moi, au début de mon service civique, j'avais beaucoup d'appréhension sur le fait que ça pourrait être très scolaire. Du coup, j'avais un peu peur sur ça, mais une fois que j'étais bien dedans, quand je vois qu'on a quand même une assez grande autonomie, ça fait très plaisir à voir, surtout de voir qu'on est traité vraiment comme des adultes pour la plupart, et qu'on nous apprend à vraiment entrer dans la société active comme ça.
Oui, par exemple, on peut préciser qu'à Unicité, sur la mission Cinéma et Citoyenneté, on a une réunion en début de semaine pour préciser les objectifs, pour faire le bilan de la semaine passée, mais qu'après, on est laissé extrêmement autonome sur tout ce qui est déplacement, comment on gère nos propres objectifs de la semaine, ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression, pour venir sur la question des préjugés, que peut-être ces a priori négatifs sur le service civique proviennent de personnes qui connaissent peu ou qui connaissent mal le service civique, puisque moi j'avais plutôt des a priori positifs. J'ai plusieurs amis dans mon entourage qui ont fait des missions de service civique, et à chaque fois ils étaient vraiment satisfaits à la fin de leur service, de leur mission, que ce soit dans des associations. J'ai une amie qui a été dans un cinéma par exemple pendant 6 mois, un cinéma associatif, et j'ai l'impression que la grande majorité des gens qui s'engagent pour un service civique en tirent une expérience bénéfique à l'arrivée.
Oui, je pense que le service civique, c'est pas juste 8 mois comme ça dans une vie. C'est aussi, ça aide à construire son avenir. Et d'ailleurs, on est très accompagné par notre tuteur sur cet aspect-là.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès, vous venez d'écouter Les Jeunes Volontaires en Service Civique à Unicité, une émission enregistrée à l'occasion d'un atelier radio qui s'est déroulé mercredi dernier dans nos studios. Un atelier radio en partenariat avec Unicité Albi et Lucie Callas. Pour entendre l'intégralité de cette émission sur nos ondes, ce mercredi à 16h et samedi à midi.
Qu'est-ce que c'est qu'un maire en milieu rural ? Quelles responsabilités lui incombent ? De quel pouvoir dispose-t-il ? Comment peut-il exister dans une république où les partis et autres lobbies gouvernent plus par idéologie que par pragmatisme ? Nous avons rencontré le maire de Val-d'Eriès pour tenter de comprendre le quotidien d'un élu de proximité. Extrait.
Vincent Recoulot, je prononce bien ?
Oui, c'est bien ça, c'est Vincent Recoulot. Certains prononcent Recoulot, mais c'est bien Recoulot.
On est dans le bureau du maire, c'est marqué sur la porte. Vous êtes maire de Val-d'Eriès depuis 2020, c'est ça ?
Oui, tout à fait. J'ai été élu aux dernières élections municipales qui ont eu lieu sur la commune, comme dans toutes les communes de France d'ailleurs, en 2020.
Alors, qui dit maire, qui dit élu de la République ? Première question, quel enfant de la République avez-vous été ?
Oula, j'ai eu un très long parcours, en fait. Je me suis intéressé très tôt à la politique, en fait. Dès l'âge de 17 ans, rencontrant des difficultés au niveau familiaux, c'était compliqué, une petite ferme avec 6 moutons et nous avions 6 vaches et 50 moutons. C'était très compliqué, donc c'est vrai que j'étais un peu un écorché vif et souvent je faisais des remarques sur le fait que la société ne s'occupait pas des gens qui étaient en difficulté ou autre. J'avais déjà cette préoccupation et j'ai rencontré Monsieur Pierre Bernard, qui à l'époque était le médecin généraliste de ma famille et qui était député à l'époque de la circonscription de Jaurès, qui était élu maire de Trévas, et qui m'avait dit, eh bien, tu sais jeune, si tu veux faire changer la société et t'impliquer, il te faut adhérer dans un parti politique et faire avancer et défendre tes idées et tes convictions. Et c'est vrai que j'ai écouté ses conseils et dès l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai pris ma première carte au Parti Socialiste. À l'époque, au secrétaire de section, qui était le père de Jean-Luc Espitalier, qui Jean-Luc Espitalier est aujourd'hui maire de Saint-André, qui à l'époque était maire de Saint-André et habitait à Grosse. Et je suis monté à mobilette chez lui, je me rappelle, prendre ma première carte pour adhérer au Parti Socialiste.
C'était quelle époque ça ?
C'était, j'avais 17 ans, donc c'était en 1987.
Donc le Parti Socialiste, t'as la grande époque.
Ouais. Disons que oui, c'était la belle époque. J'ai eu un souvenir formidable. Nous étions allés à l'époque à Portée-sur-Garonne voir le meeting de François Mitterrand. C'est vrai que j'ai jamais revu et retrouvé une telle ambiance qu'on avait à l'époque au Parti Socialiste.
Et en quoi justement les valeurs du socialisme ça collait avec la République pour vous?
Mais j'ai toujours eu cette vision des choses, de dire qu'il faut qu'on soit en capacité de partager et qu'il faut que les plus puissants entre guillemets puissent aider les plus faibles, quoi. Voilà, et c'était ma philosophie, et de dire qu'il fallait être équitable, qu'il fallait savoir partager, et qu'on était sur au niveau de notre société, même au niveau du monde entier, de dire voilà, aujourd'hui il y a des gens qui naissent avec plus de difficultés que d'autres, et c'est à ceux qui ont les moyens de tendre la main à ceux qui sont en difficulté. C'est toujours ce qui a été ma philosophie. On a connu ça, je suis un enfant, on était une fratrie de 6 frères et sœurs, on est toujours d'ailleurs, et c'est vrai qu'on n'avait pas d'argent, mais nos parents nous ont inculqué justement ce partage, cette solidarité, cette entraide qu'il faut avoir entre les citoyens, entre les humains.
Vous avez aussi une formation syndicale? CGT, je crois.
Alors, c'est vrai que j'ai eu un parcours, je suis un pur autodidacte, et je le revendique, j'ai eu un parcours particulier. C'est vrai que j'ai quitté l'école très tôt, du coup, pour travailler et pouvoir subvenir à nos besoins. Mais par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables, et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la SNCF en 1999. C'est vrai que je suis rentré à la SNCF grâce au mouvement qu'il y a eu en 1995 des cheminots qui étaient là, qui voulaient que leur entreprise puisse prospérer et puisse embaucher aussi par rapport aussi aux combats qu'ils ont menés par rapport aux retraites. Et dès que je suis rentré à la SNCF, c'est vrai que j'ai de suite adhéré dans l'année qui a suivi au syndicat, à la CGT, parce que que ce soit en politique ou en syndicalisme, j'estime qu'il faut avoir un investissement, qu'il faut être présent. Alors à partir de là, on fait un choix, on regarde le syndicat ou le parti qui nous convient le mieux, et puis on s'engage. Moi, à l'époque, je me suis engagé à la CGT, parce que c'est vrai que certains les trouvent durs, certains les trouvent parfois... mais c'est un syndicat qui défend les ouvriers, et aujourd'hui, ça maintient un équilibre, parce que j'imagine mal un pays sans syndicat.
Là, on vous retrouve maire d'une petite commune rurale. C'est votre premier mandat à la tête de la municipalité, donc de Val-d'Ariès, et vous avez commencé direct en 2020 par le Covid, en plein milieu. Vous rentrez déjà, l'élection s'est passée assez spéciale. Comment vous l'avez vécu ?
Alors, mon mandat de maire, c'est vrai que c'est le premier mandat de maire, mais c'est mon quatrième mandat, mon cinquième mandat même d'élu. J'ai été élu d'abord à Cadix, la commune où je suis né, conseil municipal. Après, j'ai été élu à Varennes, au conseil municipal d'Inter-Garonne. Et après, j'ai été élu à Val-d'Ariès, au conseil municipal, où j'ai fait deux mandats avant d'être maire. Et c'est vrai que quand on a été élu maire, nous, en 2020, avec ce Covid qui est arrivé le lendemain de l'élection, ça a été très compliqué. On est rentré en fonction 3 mois après, au mois de mai. Donc du coup, on est resté en attente, là, ça a été très compliqué. Je pense que ça a été compliqué pour tout le monde, pour les élus comme pour ceux qui n'avaient pas été élus. Ça a été une période vraiment particulière, très singulière, et derrière, on a enchaîné sur 2 années très compliquées. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je ne retrouve pas la société qu'on a pu connaître avant le Covid.
Et donc vous succédiez à André Cabot, maire socialiste durant 31 ans. On a parlé de votre engagement socialiste. Est-ce que justement les couleurs du Parti Socialiste en 2020, est-ce qu'elles ont compté pour votre élection, ou est-ce que les choses ont un peu changé sur le rôle des étiquettes dans tout ça ?
Le rôle des étiquettes, aujourd'hui le rôle des étiquettes a plus un impact sur les élections, je dirais, nationales ou régionales même à la limite. Mais quand on rentre dans des élections plus elles sont locales, moins l'étiquette rentre, prend, a, je dirais, des conséquences. Ce qui a le plus d'importance vis-à-vis des électeurs et des citoyens, c'est, je dirais, le comportement que nous, on peut avoir, ce qu'ils savent de nous. Aujourd'hui, c'est la constance. Aujourd'hui, les gens qui m'ont élu, ils connaissent mon positionnement depuis longtemps. Donc, je veux dire, ça n'a pas changé. Ils connaissent l'homme avant tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que recherchent les électeurs, justement, c'est la constance chez les hommes politiques. Aujourd'hui, moi, je suis assez surpris de voir tous ces gens qui s'engagent en politique, qui hier étaient au PS, demain sont à Horizon, après-demain ils sont à Renaissance, enfin voilà. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est va-et-vient dans différents partis politiques. Bon, on dit que c'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent qui change de sens, mais ça pose question. Moi, j'estime que, certes, on a les partis traditionnels qui ont peut-être des choses à revoir dans leur fonctionnement, dans leur façon de faire adhérer les gens, dans les débats qui sont menés. Mais je trouve quand même regrettable qu'aujourd'hui, le comportement de certains acteurs politiques a changé sans arrêt de positionnement pour des intérêts purement personnels, sans travailler sur l'intérêt du collectif et du commun, me pose question.
Alors, est-ce que, peut-être les étiquettes donc, localement, ce n'est pas important, mais est-ce que le clivage gauche-droite, il existe à un niveau local, à l'Aldérias par exemple? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et est-ce que vous pensez que les gens se sentent représentés par la gauche ou la droite, ici, à l'Aldérias en tout cas?
Non, sur la gestion d'une commune comme Val-d'Ariès, 860 habitants, on est plus dans la gestion. Après, on peut avoir des choix qui, politiques qui peuvent être mis comme des choix de gauche ou de droite. Bon, nous, on a mis par exemple en place une aide de 20 euros pour les jeunes qui prennent une licence sur le club de Val-d'Ariès. Là, on est en train de mettre en place la cantine à 1 euro, mais ça, c'est quelque chose qui est porté à la limite par l'État. Voilà, il y a des sujets, on met l'accent un peu sur la culture. Voilà, aujourd'hui, on est en train de relancer un peu la culture au niveau de notre commune. Est-ce que c'est des choix de gauche ou de droite? Je ne sais pas vraiment à notre échelle si on peut parler de droite ou de gauche. Quoi. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est que tous les gens qui s'investissent sur les petites communes, c'est vraiment parce qu'ils ont une volonté d'amener un service, de rendre un service à la collectivité et de gérer la collectivité. Voilà.
Vincent Recoule, donc maire de Val-d'Ariès, dont l'entrevue intégrale est à retrouver ce vendredi 27 janvier à midi ou 18h sur nos ondes. Rediffusion, ce dimanche 29 janvier à 8h du matin dans notre créneau à Toutarne. Et à retrouver ensuite en podcast sur notre site internet www.radioalbiges.com. La boîte vocale et locale, c'est l'opportunité pour chacun et chacune d'entre vous de passer à la radio, d'annoncer des événements ou de faire quelques mots d'esprit, la preuve avec les messages de cette semaine.
Bonjour, pensée d'un jour ou d'une nuit, de Jean-Louis Reynès. Cherche armoire à remonter pour meubler le temps. Cherche cyclope pour fumer à l'œil. Et la dernière, cherche essuie-glace pour sol pleureur. À bientôt les amis.
Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Albicès. L'association des parents d'élèves de Lombers organise son loto le dimanche 29 janvier à 14h à la salle des fêtes de Lombers. Évidemment, comme tout loto, vous retrouverez différents cadeaux ou autres surprises. Ce seront des bons d'achat, des barbecues, des jambons, différents filets garnis et autres petites garnitures intéressantes et alimentaires. Voilà, nous vous invitons donc à être nombreux et nombreuses le dimanche 29 janvier pour le loto. Bien sûr, l'ensemble des bénéfices sera reversé en fait pour tous les projets à l'attention des projets d'école de l'école de Lombers. Merci à toutes et toutes et à très bientôt.
Voilà, le 09 77 66 38 56, c'est la boîte vocale et locale, ouverte toute la semaine, 24 heures sur 24, même la nuit. On l'a entendu, je pense que Jean-Louis René nous a laissé un message, une pensée de sa nuit. Et n'hésitez pas donc à nous laisser des messages, des événements, des coucous ou des questions sur la programmation ou sur tout ce qui peut concerner ce que vous entendez sur les ondes. On arrive à la fin de cette émission, Arnaud ?
Oui, merci Will, merci Paulina et merci Alex. N'hésitez pas
Comme un lundi, c'est à retrouver en podcast en passant par notre site radioalbidjess.com. Moi, je vous propose de terminer non pas en musique, mais en écoutant la bande de son du film Kouroupia, Bête des Bois, film qui sera diffusé ce lundi soir à partir de 18h à la salle Arcé de l'Athanor à Albi et qui accompagnera la conférence de Juliette Vauclair sur la petite histoire de la prise de son naturaliste. Ces deux événements seront programmés dans le cadre de la semaine du son organisée par le GMEA. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la semaine de son, vous pourrez retrouver la programmation complète en écoutant le magazine réalisé avec Jérôme Blanchard du GMEA, magazine à retrouver sur nos ondes demain à midi et à 18h et dès mercredi en podcast sur notre site radioalbidjess.com. À lundi prochain, si tout va bien.
Bonne semaine, ciao, ciao.
Bonne semaine.
Ciao.
É um assovio fino, assim, longo. Bem fino. Mas se você ouvir aquele som dela, parece que assim a mente da gente se apaga.
Ela encandia a gente, assim, penaltiza. Diz que ela faz a gente se perder no mato, né?
É invisível, só aparece, dizem que só aparece quando quer. Mas a gente sente aquele animal. A gente sente. Eu já senti.
Mais pessoas que contam. Eu nunca ouvi isso, porque se eu tivesse ouvido, eu não estaria nem aqui.